Merci Didier. Alors, à la fois vous concluez, mais vous ouvrez aussi sur la table ronde de cet après-midi qui est consacrée justement à l'identité européenne. Donc on va essayer, si vous voulez bien, prendre des questions, mais peut-être de ne pas toucher ce sujet de l'identité européenne ici. Consacrons-nous plus au problème des négociations. Est-ce qu'il y a une autre solution alors que l'intégration complète de la Turquie, Didier Bayon a répondu non. Est-ce que, voilà. Alors je vous propose de, si vous voulez bien, vous poser une question, enfin pas trop longue, parce qu'on n'a pas énormément de temps encore. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous pourriez vous présenter quand vous posez les questions ? Alors, allez-y. Monsieur.
Vous m'entendez, là ? Oui, bonjour. Claude Bounet-Thiroux. Je fais partie d'une association de seniors qui travaille pas mal en Turquie et sur des missions pour aider les moyennes entreprises. Qui s'appelle Lekti. Je suis par ailleurs administrateur de la Chambre de commerce franco-finlandaise, donc c'est à l'autre bout. Moi, j'ai une remarque, c'est toujours souvent le même problème, c'est il y a le politique, il y a l'économique. Vous avez su démontrer, M. Bernard, combien les processus d'adhésion ont aidé au développement de la Turquie, aux investissements en Turquie, donc à son développement. Lors de la réunion du MEDEF, il y a 15 jours, ça a bien été démontré que le formidable business qui se passe, alors non seulement entre l'Union européenne, mais dans tous les pays de tous les pays du monde vis-à-vis de la Turquie, donc le processus économique, ça y est, c'est parti, it's a success story, comme vous avez dit, mais ça a décollé, la Turquie. Ça marche, et ça continuera de marcher, adhésion ou pas adhésion. Alors, ma remarque, ma question est la suivante. Est-ce que la Turquie a intérêt à adhérer à l'Union européenne? À mon sens, elle n'a pas intérêt car elle n'aurait plus les mains libres. Elle serait dans le carcan européen. Elle ne serait plus libre de faire ce qu'elle fait depuis 20 ans, 25 ans, où ça s'est accéléré vis-à-vis des républiques turcophones, où vous faites un travail de développement formidable. Il y a le problème du Moyen-Orient. En restant libre et indépendant, entre guillemets, vous auriez, à mon avis, non pas davantage de succès, mais je pense que la position de la Turquie serait davantage neutre que d'adhérer à un grand groupe qui s'appelle l'Union européenne.
Merci.
Alors, c'est la question.
Merci. Nous en prenons encore deux autres, si vous voulez bien. Merci.
Didem Engin, je représente le cabinet de conseil Renova et le Parti républicain du peuple de Turquie. J'ai une question pour M. Cervantes. M. Billion a défini en fait cette période difficile au sein même de l'Union européenne par des pertes de repères. Alors je voudrais savoir ce que M. Cervantes en pense, et surtout parce que vous avez qualifié la capacité d'intégration par une volonté politique. Alors d'une part, nous avons des accords qui sont signés entre la communauté européenne et la Turquie, et des critères bien définis. D'autre part, des changements de volonté politique. Comment est-ce que vous pensez que c'est normal, c'est acceptable, c'est légitime de voir ce genre de changement de volonté sur concernant l'adhésion d'un pays comme la Turquie? Merci.
Merci. Une troisième question. Allez-y, je vous laisse. Je
peux déborder légèrement peut-être sur le temps de.
Oui.
Désolée.
Après, on ira au fond.
Je suis turque, donc je vis depuis 10 ans en France. Je travaille dans le secteur privé, je suis consultante. Donc, d'abord, je voudrais remercier M. Bernard par rapport à sa présentation dynamique et surtout très factuelle. Factuelle en quoi les enjeux économiques représentés par la Turquie, certes connus factuellement, et peut-être non reconnus dans le cadre du processus de son adhésion. Donc, pourquoi je fais cette ouverture? Justement pour parler du sujet de l'entrée dans l'union douanière sans avoir été membre à part entière. On en parle positivement. Mais j'ai une question qui est double. Donc, une question pour M. Cervantes et une autre pour Mme Gulacan. Donc, pour M. Cervantes, est-ce que les raisons politiques et sociales que vous démontrez ne sont pas des excuses en quelque sens, parce que la Turquie est déjà un marché acquis avant l'heure. Donc ça c'est ma question. Économiquement, voilà, les enjeux sont là, mais la Turquie qui est un haut potentiel est déjà un marché acquis. Donc, Madame Gulacan, pour vous, ma question, justement, effectivement, c'était peut-être une réussite comme ça avait été perçu à cette époque, mais maintenant que vous parlez des chapitres qui sont bloqués toujours sur le sujet de l'union douanière, apparemment, ce n'est pas des ce ne sont pas des bénéfices bilatéraux, en tout cas pas en faveur de la Turquie. Donc, avec le recul, 13 ans après, après l'entrée dans l'union douanière, comment voyez-vous ce pas diplomatique qui a été fait donc, il y a 13 ans? Est-ce que c'était précoce ou pas? Voilà, merci.
Donc, je propose que Mme Gurakan réponde de la première à cette question. Est-ce que donc l'union douanière, c'était trop tôt? On n'aurait pas dû, vous n'auriez pas dû la faire?
En effet, merci pour la question. En effet, comme vous le savez, tout le monde, c'est-à-dire que vous le connaissez bien, cette aventure européenne qui est parlée partout, dans d'autres différentes plateformes. Et cette aventure, ou bien cette démarche, a été commencée déjà dans les années 63, c'est-à-dire avec l'accord d'Ankara. Et la réglementation ou de l'application de l'accord d'Ankara est prévue et bien, comment dire, mise en œuvre avec le protocole additionnel, c'est-à-dire toutes les applications liées à l'accord d'Ankara sont fixées avec le protocole additionnel et selon lequel il y a un calendrier. Et l'union douanière, c'était fixé. C'est-à-dire, ce n'est pas tout au début, mais entre-temps, avec les décisions d'association, c'était fixé. C'est-à-dire, on ne pouvait pas parler d'une union douanière si c'était tôt ou tard, ça aurait été un peu plus tard, parce que c'était déjà fixé avec le calendrier de notre accord essentiel avec l'Union européenne. Par contre, c'est ce que je peux peut-être ajouter, juste pas aller un peu trop loin. Et comme je disais tout à l'heure, maintenant l'union douanière est devenue en dehors de comment dire, dirais-je, c'est-à-dire le bon fonctionnement de l'union douanière est maintenant loin dans le cadre du processus de l'adhésion. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de problèmes. On peut citer les problèmes de visée des hommes d'affaires. Les marchandises peuvent circuler en libre circulation, peuvent être en libre circulation, tandis que les hommes d'affaires ne peuvent pas. Le problème de quotas pour les échanges, pour les transports. Le problème des accords de libre-échange dont j'ai fait mention un petit peu tout à l'heure, pendant mon exposé. Alors, comme j'ai dit, le design de l'union douanière était pour les années, la période de 1996 jusqu'à 2001. Et au-delà, ça changeait beaucoup dans le monde, aussi en Turquie qu'en l'Union européenne. Alors, il faut pas mettre les obstacles devant la Turquie en mettant d'autres critères qui est plutôt politique, parce que les processus d'adhésion, c'est bien évidemment lié aux critères politiques, mais plutôt ils sont liés aux critères techniques. Merci.
Merci. Si je peux apporter un petit témoignage, quand je travaille en Turquie, c'est vrai que l'union douanière est encore beaucoup perçue par l'opinion publique par quelque chose qui leur a coûté plus que ça ne leur a apporté. Hein, je ne parle pas des hommes d'affaires, mais l'opinion publique souvent a l'impression que, au fond, l'union douanière, ils ont beaucoup donné et pas autant reçu. C'est souvent ressenti comme ça. Monsieur Cervanti, vous avez deux questions là auxquelles répondre. Donc, est-ce que c'est pas un prétexte les problèmes, puisque sur le plan économique ça marche plutôt bien, est-ce qu'au fond l'Union européenne ne prend pas pour prétexte tout ce qui ne marche pas du côté politique et social? C'était une des deux questions.
Et... Oui, je vous remercie. Il y avait plusieurs questions. Et sur la question de l'union douanière, je voulais rappeler quand même que au départ la Turquie n'en voulait pas. En 1963, on n'a pas l'accord d'association ne prévoyait pas l'union douanière parce que les milieux d'affaires étaient contre. En 1975-1976, quand la Grèce a posé sa candidature et le secrétaire général de la Commission a proposé aux Turcs de poser leur candidature aussi, le Premier ministre de l'époque, Teddy Mirel, n'a pas voulu parce que les milieux d'affaires étaient contre, parce qu'ils voulaient toujours avoir l'économie de substitution. En 1980, je me souviens d'une discussion avec Anand Kaveji, qui était le chef de cabinet de Zal, avant de devenir son ministre. Il disait qu'eux, ils avaient comme objectif de préparer la Turquie, les milieux industriels, à l'adhésion. Mais en 1987, quand il a présenté la candidature d'adhésion, et les gens de Tusiad, je regrette que M. Kalyasin ne soit pas là, sont venus à Bruxelles pour dire « nous ferons tout pour ». Huit jours après, il rentre en Turquie. M. Özal décide de réduire conformément à l'union douanière les droits de douane de 10%. Et les mêmes industriels ont dit « mais vous allez nous tuer. Nous allons être obligés de fermer nos usines ». Donc, je pense que le président Özal a amené une révolution dans l'attitude des industriels turcs qui a amené l'ouverture du pays et qui a amené, même si certains ont l'impression que la Turquie a un peu souffert du processus en réalité, ce dont on se plaint, c'est que les Chinois peuvent importer en Turquie. Mais les industriels turcs, certains du textile, m'ont dit « mais nous avons investi en Chine, ce sont nos produits qui reviennent ». Donc, la Turquie maintenant a plus de milliardaires que la France. Comment c'est arrivé ? C'est grâce à cette ouverture. Donc là, il ne faut pas accuser l'union douanière. Deuxièmement, le changement de volonté politique et l'idée, je me souviens d'un parlementaire européen du PPE qui nous disait on va mettre des fonctionnaires européens pendant 2 semaines dans une salle et puis ils vont réfléchir sur ce que pourrait être le contenu de partenariats privilégiés. Et moi, je trouvais que c'était vraiment une monstruosité politique de dire quelque chose comme ça, parce que c'est simplement dire on change un peu les mots pour donner l'impression qu'on apporte une nouvelle réalité. La Turquie a un partenariat privilégié depuis l'accord d'association et depuis tous ces développements. On ne peut pas apporter quelque chose de plus, même en changeant des mots. Il ne faut pas se masquer, il ne faut pas commencer à raconter des histoires. Les négociations qui ont été ouvertes en 2005, c'est des négociations pour l'adhésion, ce n'est pas des négociations pour un partenariat privilégié, pour autre chose. Et je crois que Mme Merkel, même si son parti est un peu réticent, a pris une position très claire. Elle a dit « nous avons pris un engagement pour négocier vers l'adhésion. Nous tenons cet engagement jusqu'à la fin. Les pacta sunt servanda, les traités doivent être... »
Quand est-ce qu'elle a pris cette position-là? Cette déclaration, elle l'a faite quand?
Après les dernières élections, quand il y a eu la formation de la coalition avec le SPD.
Oui.
Les
avant-dernières. Depuis, elle avait pris d'autres positions.
Et le parti le FDP, quand même, a toujours pris une position aussi plus favorable à l'adhésion de la Turquie que la CDU, certainement, ou la CSU.
Il y avait une autre question ?
Non ? Une autre question, c'était... Est-ce que le marché n'est pas acquis avant l'heure? Mais non, je crois que j'ai répondu déjà. Hein, c'est pas. M. Bernard est extrêmement clair. C'est pas une question de marché acquis. C'est une question de développement de l'industrie turque elle-même, et qui a été effectivement formidable au cours des dernières années. Lors de notre dernier rapport de la Commission, on a bien dit que la Turquie est une économie de marché qui fonctionne. Et quand on va dans les pays d'Europe de l'Est, on voit que les Turcs investissent plus, même en Bulgarie, en Roumanie, dans les pays du Caucase, en Géorgie, que nos États membres.
Alors justement, est-ce que une intégration à l'Union européenne ne leur lirait pas les mains? C'était la question de monsieur.
Alors c'était effectivement la question que vous avez posée. Pardon. C'était effectivement la question que vous avez posée. Est-ce que l'intégration de la Turquie dans l'Union européenne ne risque-t-elle pas de lui lier les mains par rapport au dynamisme qu'elle a actuellement? Alors, vous avez dit que la Turquie, c'est une affaire qui marche actuellement. Effectivement, ça marche. Ça s'est bien développé. Il y a tout un ensemble de secteurs qui sont parmi les plus dynamiques en Europe. J'ai quand même essayé toujours dans ma présentation d'être le plus objectif possible. Il ne faut pas penser que la Turquie, c'est aussi le paradis. Vous avez des secteurs qui ont besoin d'être encouragés, qui ont besoin d'être développés. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais beaucoup de travail a été fait. Je crois qu'il y a deux, trois éléments qu'il ne faut pas oublier. La Turquie actuellement fait un peu plus de 50% de son commerce, entrant et sortant, avec l'UE27. Vous avez plus de 65% des investissements directs internationaux qui sont opérés en Turquie, qui viennent de l'Union européenne. Ça montre quelque part, d'une part, la très étroite imbrication qu'il y a entre ces deux pôles, et surtout l'intérêt bien compris que l'Union européenne a à avoir la Turquie avec elle économiquement. Elle n'a peut-être pas toujours bien compris au niveau politique, mais quand on sait et quand on se rappelle que dans les 5-6 dernières années, la politique étrangère de la Turquie, ça n'est pas mon domaine, et je m'excuse auprès de ceux qui le connaissent mieux que moi, ce domaine, mon interprétation est que depuis quelques années, la politique étrangère de la Turquie est une politique qui rappelle quelque part l'une des phrases d'Atatürk qui disait « paix à l'intérieur, paix à l'extérieur ». Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis quelques années, la Turquie a pacifié, entre guillemets, a amélioré de façon extrêmement significative les relations avec tous les voisins immédiats, tous. Rappelez-vous, il y a 10 ans, les relations entre la Turquie et la Bulgarie, ils n'allaient pas passer leurs vacances ensemble, c'est clair. Entre la Turquie et la Grèce, entre la Turquie et l'Iran, la Turquie et la Syrie. Regardez les relations maintenant, le rôle qu'a ce pays dans toute la région, dans tout cet espace régional. Alors, ce que je voulais vous faire sentir comme sentiment, celui que j'ai, c'est le suivant. Dans tous les débats de préférence politiciens que l'on entend souvent en France, on parle toujours de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, c'est-à-dire du fait que les Turcs vont venir chez nous. Ça me rappelle quelque part un peu la Marseillaise qui viennent chez nous égorger nos fils et nos compagnes. C'est une vision qui est quand même extrêmement réduite. Pourquoi on ne réfléchit pas d'une façon beaucoup plus large, en allant au-dessus de son nez, même si on l'a long comme moi? Pourquoi ne regarde-t-on pas un peu plus loin en se disant que c'est nous, Européens, qui allons avoir la chance de nous étendre sur ce pays et de profiter, comme vous l'avez très bien souligné, monsieur, du dynamisme qu'il a, ce pays, dans tout un ensemble de pays où nous, Européens, ne savons pas aller, ne savons pas travailler. Donc, au lieu de toujours penser dans le sens « ce sont les Turcs qui viennent en Europe », pensons plutôt au fait que c'est l'Europe, l'Union européenne, qui a la chance de s'étendre dans des régions dans lesquelles sa position internationale et sa puissance vont être renforcées. Merci.